soyez les bienvenus avec les Lagadons.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour.
Jérémy Crédville.
Bonjour.
Albert Algou, Tanguy Pastureau. Et notre invité, Alex Lutz.
Bravo.
Tu es là, Alex.
Bonjour, je me suis trompé de micro.
Tu sais même plus où t'asseoir. Non. Ça va, Alex, tu sors de la douche, j'ai l'impression.
J'ai fait un soin.
Ah non, mais faut m'expliquer, ça me passionne.
J'ai les cheveux un peu plus longs et alors on m'a dit faut mettre des trucs dessus.
Ah, les acteurs césarisés.
C'est bien. Non, il faut hydrater.
Ça prend des proportions.
Oh là là.
Ça prend des proportions.
Non, mais il faut hydrater. Ouais. Surtout les extrémités.
Voilà.
Ouais, ça va, Leïla ?
C'est d'une précision, ouais, tout ça.
Ouais, c'est précision. Tout le monde t'entend.
Il y a un véritable savoir.
Alex a joué son one-man show, son seul en scène, sauf que vous n'êtes pas vraiment seul.
Ah, pas complètement.
Sur scène, ça s'est passé aux Folies Bergère et vous reprenez ce spectacle à partir de la semaine prochaine.
Oui, à partir du 21.
21 décembre jusqu'au 26 janvier.
Oui.
Un spectacle totalement dingue, mis en scène par Tom Dingler. Ça avait commencé par l'Olympia, d'ailleurs, la première scène.
Oui, c'est une curieuse idée. Mais j'avais, après les quasiment 10 ans du précédent, quand mon producteur m'a dit que ça serait peut-être bien de réfléchir à un nouveau, je m'étais dit, si je ne me mets pas la barre extrêmement haut, j'arriverai à rien pondre. Ça me paraissait très difficile, quoi, de réécrire. Je sais pas pourquoi. Alors là, ça crée un aiguillon tout de suite très vertigineux, mais c'est pas plus mal.
Et c'est un enchaînement d'idées, c'est-à-dire que tout part de l'entrée. Alors, je sais pas ce qu'on peut dire ou pas dire.
Oh, vous pouvez tout dire. Moi, je m'en fous des trucs de spoiler, pas spoiler, en fait.
Divulgâcher.
Divulgâcher.
L'ouverture, c'est donc cette parade
cheval.
Sur un
cheval, mais elle est loupée.
Et voilà. Et ensuite, c'est de décliner à partir de là cette idée que.
C'est qu'on part je l'ai loupé.
Ouais, c'est de la vanité d'une certaine façon.
La vanité.
C'est un peu comme ça que se terminait le précédent.
Je faisais un faux cheval. Et là, il y en a un vrai.
Il y a un vrai. Il est sublime.
Il est gentil. Mon collègue.
Il s'appelle comment?
Ils sont deux, à vrai dire.
D'accord. C'est comme les enfants, il faut les relayer pour.
Il faut pour qu'ils se reposent, qu'il y ait du confort un maximum. Et il y en a un peu plus sur le banc de touche. C'est Nilo et Botero. Botero, c'est celui qui travaille le plus. Nilo, il se glande bien les niches.
Les niches.
Et donc, on parle de se mettre la pression, on parle de la confiance en soi. C'est-à-dire que ce sont des thèmes extrêmement généraux qui trouvent écho en nous tous, mais du point de vue de l'artiste, de pourquoi se mettre la pression, pourquoi ne pas vouloir décevoir, et on s'identifie sans être artiste
à
ces questions.
Je crois, de toute façon, on est dans une ère particulière entre l'artiste et pas l'artiste, l'autoroman, pas l'autoroman, la phrase de Warhol, du quart d'heure de gloire devient de la demi-seconde de gloire pour les uns et les autres, et c'est un fantasme
étrange. Oui, il y en a même qui ne veulent exister que avec leur quart d'heure de gloire, sans avoir rien fait de leur vie.
Oui, il y a quelque chose qui s'est passé en tout cas.
C'est ça.
Et l'aspect... performance à tout prix, m'intéressait beaucoup, me chagrine un peu dans la vie, parce que je me dis, c'est pas possible, enfin, il n'y a plus un dîner où il n'y a pas un expert de ce que vous êtes en train de bouffer.
On n'a jamais mangé ensemble, pourquoi il me disait
Un feeling,
vous allez comprendre.
Non, mais c'est même pas tant
définitif,
Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un sujet qui s'aborde sans que quelqu'un ait lu et su mieux que l'autre. Bon, bref. Et tout ça, je me suis dit, tiens, c'est quand même inspirant pour faire rire.
Ouais.
Et je trouvais plus inspirant de partir d'une grosse chute symbolique au départ, c'est-à-dire de se prendre bien le mur dans la gueule et de se dire, allez, comment derrière je raconte deux heures de spectacle.
Sauf que la chute, elle est évidemment jouée et jouée d'ailleurs. L'erreur, l'échec, c'est encore plus dur que de peut-être réussir tout simplement l'acte. Et c'est là où le jeu est formidable. Et on sait, vous êtes un brillant comédien, mais en plus le faire avec cet animal qui est imposant, qui est majestueux, qui est c'est un spectacle à lui tout seul. C'est une épreuve et c'est une réussite. Et il y a des moments de grâce pendant ce spectacle, on y reviendra. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui a changé entre la première à l'Olympia et par rapport à ce qui va se passer
la salle
à partir de la semaine prochaine, le 21 décembre notamment. Ça sera, je le rappelle, aux Folies Bergère. Mais d'abord,
quoi ?
Des questions concernant, Alex Lutz. Comment Alex est-il venu au théâtre ?
À pied.
Non,
parce qu'il devait être.
Il s'en va.
vanne à deux balles.
Ça l'a énervé, il s'en va.
Il devait être
parce que la vanne n'était pas bonne en même temps.
Il devait être inscrit dans une filière littéraire, il n'avait plus de place, il a été transféré dans un autre établissement, et c'est là qu'il a intégré la filière théâtre.
Exactement.
C'est ce que j'allais dire.
C'est presque ça, ouais.
Un problème d'orientation, en fait.
D'orientation, je devais faire du dessin. Et ah oui, parce que j'adorais le dessin, et on m'avait dit, je devais faire un bac. Ça existe encore à 3, non?
Le bac, ah,
ça fait longtemps qu'on dit plus ça.
On dit plus à 3, on dit littéraire plus art plastique, je sais pas quoi.
Ouais, bon, bref. Ouais, elle.
Et, voilà. Et
les enfants, dites-nous, dites-nous.
Ça a changé entre.
C'est quoi, on dit quoi?
Mais il n'y a plus, enfin!
Ça existe plus.
Non,
ah,
ça,
c'est des options.
Non, mais ça existait déjà.
Jetez-lui
plus
des
à
cailloux.
Laissez-moi.
Jetez vos chaises.
Ça existait déjà plus à mon époque. Hein.
Ah bon? Mais si, enfin.
Non, désolé. Non, c'est pas là.
Et donc,
je suis si vieux, Alex.
Je suis extrêmement vieux. Et je vais faire enfin, j'essayais de pouvoir entrer dans cette section-là. J'avais un dossier scolaire assez catastrophique. Et il m'avait dit, mais s'il fait du théâtre à côté, alors il pourra intégrer là où il y avait plus de place. Ouais. Bon, je sais plus.
Bref.
Toujours est-il que ça s'est fait comme ça.
À l'école, vous étiez plutôt quoi? Timide? Oui, mais mauvais à cause de quoi? Distrait? Vous faisiez rire les autres
dans
la classe?
Oui, plutôt sympa, plutôt, je crois, à faire rigoler. Assez contemplatif, sportif, très raisonnablement.
ça veut dire non, ça.
Ouais.
Glandeur, ok, oui. Très bien.
Moins actif que maintenant, bizarrement.
Comment? Oui, avec des regrets de ne pas avoir assez appris à l'école, aujourd'hui? Vous auriez aimé plus travailler?
Par exemple, ma mère qui était professeure de langue et qui est, donc je comprends l'allemand et je le parle pas tellement j'ai pas fait d'efforts, c'est quand même complètement débile quoi.
Mais c'est dur l'allemand quand même, c'est super dur.
Bah ouais, mais il y a plein de trucs un peu difficiles. Alors et après c'est vrai, les jeunes qui êtes là, je vous assure, non c'est si il y a des trucs où vous dites oh, c'est quand même un peu con, j'aurais pu mettre un petit
en littérature, en français par exemple, littérature.
Non, en français tout ça allait. Je me suis rattrapé en plus puisque le théâtre a permis ça.
Vous lisiez beaucoup?
Mais bon quand même moi j'adore quand des gens te parlent d'algorithmes de manière limpide et tout, je trouve ça dingue. Moi à part que ça me crée une angoisse abyssale.
Clairement. Et comment Alex Lutz surnomme-t-il ses deux partenaires d'écriture notamment pour j'allais dire Liliane.
Tic et tac.
Non,
bon, du machin et machine.
Dupont et Dupont.
Catherine et Liliane.
Catherine et Liliane. Merci. Tom Dinger et Bruno Sanchez.
Comment il est surnomme? Roxy Rookie.
Tic et tac.
Non.
C'est un nom de duo célèbre?
C'est un titre de film.
Un titre de film. Okay.
C'est Laurel Lula.
Non.
Thelma et Louise.
Laurel et Hardy.
Bonnie and Clyde.
Un nom de film.
Non, oublie le nom de film.
Ah,
d'accord.
Okay.
Comment il est surnommé?
Voilà. Comment, je sais pas.
Tom et Bruno.
Rick et Morty.
Non.
Tom et Bruno. Tom et Jerry? Tom et Bruno.
Mais je sais pas moi-même.
Oubliez le titre de film.
On va trop tard, on est pas lui.
Non, oubliez. D'ailleurs, je crois que je me suis trompé, c'est pas un titre.
En plus. Ouais, mais même lui ne sait plus.
Non.
Mais même moi, je sais pas.
C'est vrai?
C'est deux prénoms ou deux objets?
Non, c'est un qualificatif.
Qualificatif. Ouais. Ah, les.
Les deux fantastiques.
Les inséparables.
Les deux grâces. Les
intouchables.
Les couilles.
Mais on n'est pas loin, les deux
clones. Les deux clones.
On n'est pas loin.
Bah, j'allais dire, c'est vulgaire ou pas?
Non.
Ah bon?
Non.
Les inséparables, c'est ça?
Non.
Les organes.
Les intouchables.
Non.
Mais si à moi.
Mais
que faites-vous là?
Mais précieux.
Mais
deux précieux.
Non.
Mes indispensables.
On va pas y arriver.
Mes amours.
Mes meilleures copines.
Mes meilleures copines.
Ah ouais.
Et en fait, je me suis dit que c'était le film, c'était mes meilleures copines, je crois. Pas
ouais. Mes meilleures copines, c'est un autre film que je t'ai prêté,
c'est
que tu m'as jamais rendu.
C'est vrai.
Mais non, mais qu'est-ce que. Ah bon?
Il a quand même dit ah bon, hein.
Eh ben, vous
quand, à quelle occasion, Nagui?
Je donne le point à Jérémy.
Dans une interview dans Elle, et toutes les interviews dans Elle sont super bonnes.
Oui.
Vous avez dit, je pars faire du shopping avec mes deux meilleures copines.
Ah oui, parce qu'on achetait plein de
Bruno.
Trucs à un moment donné, oui. Quand on savait pas quoi faire.
La tristesse de la vie.
Bah, mais c'était sympa, je me souviens. C'est-à-dire, c'était quand même des courses, mais quand même lubique comme des gars qui se disent c'était donc pull, montre,
ah ouais, d'accord.
Chaussures, mais voilà, oui.
Un bon psy pour analyser ça, quoi. C'est-à-dire compenser,
si,
compenser par une carte bancaire, un manque. pourquoi Alex Lutz est-il sorti brutalement d'un spectacle de Sylvie Joly?
Parce qu'il
est vite sorti.
Il avait des crampes tellement il riait.
C'est le spectacle qui mettait en scène.
Non, vous riez trop.
Ah bon?
C'est dans
lui.
Non, c'est la même interview dans Elle aussi.
que je...
Bah, il a dit que des conneries.
Vous avez dû sortir de la salle parce que je riais trop. Quand vous avez vu « Ne riez jamais d'une femme qui tombe », le spectacle de Sciologie.
Ah oui, oui, oui. D'accord.
Tellement je me marrais, je suis sorti.
Oui. Parce que j'ai mis en scène le dernier spectacle, donc j'aurais pas ri trop d'un spectacle. Que...
Non, non, ça, c'est exagéré. Là, vous étiez spectateur.
Mais oui, oui, ça, c'est ça, ne riez jamais d'une femme qui tombe. Déjà, je trouvais le titre tellement génial, quoi.
Ok, je vais essayer, une autre question.
Ouais, bah, parce que je riais trop.
C'est normal.
J'ai répondu dans.
Mais c'est pas gênant pour.
Parfois, ça peut être.
Si tu trouves le parterre et que tu hurles, oui, je comprends, mais bon.
Bah, je devais faire du bruit.
Faites du bruit,
j'ai toussé en même temps.
Là, je comprends, merci.
Par quel groupe a-t-il détesté.
Ça commence hyper mal.
Quel groupe a-t-il détesté avant de les découvrir et les adorer?
Un groupe de musique.
Les Beatles.
Oui, oui.
Strokes. Les Stones.
Ah oui, ça y est, je sais.
Un groupe français.
Oasis, un français.
Alors, un groupe français que vous, que vous citez d'ailleurs dans le spectacle.
Ouais.
Dans le spectacle.
Ouais. Attention, vous attendez. Ouais, bon, Benny, des indices ou pas?
Non,
ouais,
non, si,
non, vas-y. Non, parce que c'est dans le spectacle. Alors c'est bon, je vais
le trouver. Pas un groupe.
Je vais le trouver.
NTM.
Non, c'est dans le spectacle où ils ont travaillé.
Kyo.
Non.
Attends, un
groupe. Ils sont quatre.
Quatre.
Ils sont quatre.
Ah, les frères Jacques.
Exactement.
Ouais. Quoi?
Les frères Jacques.
Ouais. Les frères Jacques. Vous détestiez ça. Vous détestiez
Je détestais le
côté mime, les collants.
Des personnes âgées parler. Parce qu'on peut parler quand même d'un. Les frères Jacques en disant que c'était extraordinaire. Je me disais, bon, ces mecs avec des collants et des chapeaux melons.
C'est vrai que c'était chelou.
En petit con.
Il y avait un côté Dupont et Dupont. Il faut se moustache.
Enfin, je me disais, c'est un mélange de beaucoup de choses. Il y avait du bondage et des Dupont, quoi.
C'est intéressant.
Quand même. C'était génial. J'ai découvert, en fait, je me souviens, c'était chez Sylvie d'ailleurs, on cherchait un peu des sons pour le spectacle et tout ça, et il y avait La Lune est morte, et elle l'a passé comme ça, et puis tout d'un coup l'harmonie m'a créé un truc très très fort, et je pense que c'était rattaché sans doute à un truc de la toute petite enfance ou quoi, comme quand vous entendez tout d'un coup une musique qui vous est familière, je peux pas vous dire. Et tout d'un coup, j'ai un peu mieux pigé et je me suis intéressé à ce.
Et alors pourquoi vous dites que là, on va pas trouver parce que c'est trop ancien, on s'en rend pas compte, et vous faites quand même une référence au frère Jacques dans votre spectacle?
Parce que j'ai un personnage qui en parle.
Oui,
qui est vieille.
Oui, mais non, mais d'accord, c'est vous qui l'avez écrit quand même. Donc,
oui. Oui, on se doute. Voilà. Mais c'est que
c'était important que ce soit une référence. Il fallait que les frères Jacques soient quelque part dans le spectacle. C'est votre
Madeleine. Oui, 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 du coup. Moi, j'avais fait Guy le film pour ça. Je l'ai souvent répondu. Les certitudes déçues, j'aime bien ça. J'aime vraiment bien quand.
Comme Robert Charlebois devait être dans Guy aussi.
Comme Robert Charlebois devait être dans Guy. Alors lui, c'était pas une certitude déçue parce que vraiment, je l'aimais depuis que j'étais petit à cause de Montréal, quoi. Enfin, de la chanson. Que c'était une chanson que j'avais appris au CM2.
Appris.
Mais sinon, j'aime bien qu'un truc que j'aime pas.
Oui.
Tout d'un coup, j'ai une clé. Ça, j'aime bien.
D'accord.
Et le partager.
La chanson en question des frères Jacques, là, voici.
Têtes et chats noirs, la lune est morte, la lune est morte. Pleurez, Pierrot, poètes et chats noirs.
Penser à emmène-moi danser ce soir.
Ouais, c'est
vrai, t'as raison.
Sauf que eux l'ont fait avant.
Oui, oui. Non, bah,
tu es en train de dénoncer là.
Merde.
Pardon. Je crois que c'est la même personne.
Michel Thor et frère Jacques.
Ouais.
Reparlons donc de ce spectacle que vous reprenez du 21 décembre la semaine prochaine jusqu'au 26 janvier, avec aussi cette vanne faite dès le début sur la notion de show must go. Hein.
Ouais.
Il faut quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, le spectacle doit continuer.
Génial.
Et là, vous commencez à l'appliquer à différents métiers. Ça, c'est à pleurer de rire, ça.
Oui, oui,
cette notion de
pas.
Quoi qu'il arrive.
Mais j'ai toujours détesté ça dans mon métier.
Mais pourtant, c'est le cas au théâtre.
Oh, mais ça me rend dingue. En plus, il n'y a jamais d'explication à part « il faut ». Et moi, j'aime bien le principe de l'annulation.
Non, mais c'est vrai qu'il y a des artistes qui, malgré un décès d'un proche, malgré une maladie...
Parce que ça
malgré...
vient de tout un truc des artistes enterrés dans la fosse commune et qui, un truc sacerdoçal par rapport... On se dit, merde, quand même, on a évolué un peu, c'est pas... Et effectivement, je dis, je vous souhaite pas au travail un collègue qui vous dise « Nathalie et Bernard viennent de perdre l'usage de leurs jambes ». Mais là, on a une réunion de bilan dans 10 minutes, la compta must go on.
La compta, ouais.
La compta must go on. Non mais je repense et je tiens à saluer d'ailleurs David Brécourt, parce que dans ces périodes de grève et de problèmes pour le public de se déplacer, David fait un seul en scène, et il était vraiment seul un soir avec deux personnes, deux personnes dans la salle.
Courageux.
Et il a fait le spectacle pour les deux personnes. Donc cette notion de show must go on.
Non, mais c'est vrai que c'est important.
Les gens
après,
avaient fait des kilomètres à pied pour venir au spectacle et il a joué.
Alors qu'Alex l'aurait pas joué.
Non, alors moi j'ai fait
alors
des trucs.
Toi, t'aurais annulé.
Quand j'ai commencé.
Tu aurais annulé, Alex, dis la vérité.
Non, quand au départ j'ai démarré au point virgule et que, en plus, c'est terrible parce que t'as l'orgueil qui arrête pas de faire des va-et-vient. C'est-à-dire, t'as un samedi où la salle est pleine, donc tu te dis, ok, c'est parti.
Je suis le roi du monde, ouais.
Et puis le mardi, ils sont 11. Et après, 2, et machin. Après, un petit toc-toc-toc à la loge d'une nana du théâtre qui fait coucou, ils sont 16, mais c'est des aveugles et tout. Et un jour, j'ai eu effectivement, de semaine en semaine, où j'avais envie de me flinguer. C'est vrai, ça m'est arrivé, les 16 aveugles.
Non.
Une association.
Ouais. Mais il y avait que...
Ah, c'était le port de La Rochelle face à moi. C'était et en fait c'était super, j'étais content.
Oh,
mais
c'est mignon, ouais. Bah oui.
Mais bon, ça fait drôle, surtout quand vous êtes dans une période où il y a moins de monde. Et je me souviens d'un soir où là elle retoc toc, elle me fait bon là ils sont quatre.
Ils sont sourds.
Je me dis ils sont quatre. Moi j'avais une musique de début de spectacle de Carnegie Hall.
Ouais.
Bonsoir. T'es là, ouais. D'accord. C'était un petit clapotis, ouais, de personnes en rythme. Et j'ai commencé le spectacle et j'ai dit, écoutez, non, c'est absurde. On va prendre un verre.
Ouais.
Et du coup, je les ai emmenés prendre un verre, mais du coup, je les ai fait rigoler.
Et gratuitement.
Ouais.
Show must go on, c'est une expression. Vous tordez le cou aussi à d'autres expressions, la fameuse pas piquer des hannetons.
C'est pas piquer des hannetons.
Ça aussi.
Bah ouais.
Alors vous n'allez pas totalement au bout. Vous commencez à l'expliquer cette.
Je l'explique longuement.
Ouais. Mais,
mais
c'est un sketch parce que c'est pas la véritable.
C'est pas la véritable explication. Je m'amuse à inventer une histoire et une étymologie et tout un tralala autour de.
Initialement, c'était piquer des hannetons, donc ça voilà. Et ensuite, c'est devenu négatif.
Oui, je dis que c'était d'abord piquer des hannetons.
Non,
la situation cool.
C'est pas négatif. Pas piquer des hannetons.
Oui, mais
c'est au contraire quelque chose qui est bien.
Oui, mais initialement, oui, il l'explique étymologiquement,
ah, oui,
avant qu'il y ait cette expression.
Oui, il y avait
négative,
l'expression plutôt positive qui était piquer,
ouais,
des hannetons.
Ouais.
Enfin bon, c'est tout un bordel, faut,
ouais,
venir voir.
Mais c'est génial.
Non, non, mais ça c'est dans le spectacle. Maintenant, le véritable sens de l'explication, c'est que le hanneton attaque le bois, donc abîme le bois.
Donc il a été drogué par un paysan au 15e siècle qui avait réussi à obtenir des opiacés et que le hanneton qui était plutôt très agressif. Si, fallait un ton second. Ouais. J'arrête. Je suis devenu au-delà de vegan. Ouais. Et voilà.
Et alors, il y a un moment de je sais pas, une espèce d'oxymore théâtral que vous faites. Vous opposez deux situations, notamment celle d'un mec, appelons un chat, qui a la chiasse.
Oui.
Et qui récite du Corneille.
Ah oui.
C'était pas fait exprès ce soir-là. Il voulait juste réciter du Corneille.
Je dis.
À moins que je me trompe.
C'est plus compliqué que ça. Oui, si, c'est l'illusion comique. Mais c'est parce que je dis que je respecte. Enfin, tout mon développement de performance, pression, pas pression, tout ça, je parle également du corps. Je parle de l'estomac. Maintenant, on dit c'est le deuxième cerveau. Ah, ok, admettons. Donc, que je traite très mal.
Des chipots.
Et
des
voilà,
et
je lui inflige des
chipots
lata, ça fera plaisir à Nagui, avec des M&M's et de la vodka.
Tu bouffes
voilà
de la merde.
Et là, c'est
merde.
Du Woody Allen, quoi. C'est la scène
et
de
là,
l'estomac.
Et là, il n'en peut plus. Et au bout d'un moment, l'estomac lui-même dit mais chiller ces chipots. Il les chie. C'est... Mais le spectacle est élégant, je vous assure.
Non, non, mais c'est ça. Et vous, quand même, et vous récitez.
Par terre, une fois au sol,
bah oui,
une fois que ça a fait pratch, je fais aimable souvenir de mes chères délices qu'on va bientôt changer. Je le fais parce que, évidemment, il
c'est
reste
génial.
Un artiste, le mec.
C'est
donc
génial.
Il se fantasme une maladie bien plus grave que ça et il dit, bah non, en fait, j'ai la chiasse.
C'est tellement drôle. Ça, ce texte-là, vous l'avez choisi parce que ça vous renvoyait à des années d'études au conservatoire.
Oui, c'est un des premiers textes en versification que j'avais appris grâce à Antonio Villumier, que je salue, qui était mon prof de voix. Et qui était dingue, il était génial. Quand on était en cours, il était au piano, il entendait quand on parlait en majeur et en mineur, et tout était incroyable. Et il nous faisait des exercices pendant 10, 20, 15, 25 minutes, bref. Et à la fin de l'exercice, il nous disait c'est très bien, dans le pire, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors on savait qu'on devait y retourner, mais il était génial, génial. Et c'est lui qui
tout comme vous, absolument génial, le spectacle d'Alex Lutz. Allez le voir du 21 décembre au 26 janvier. Et on n'a toujours pas dit ce qu'il y aurait de nouveau par rapport. C'est-à-dire, autrement dit, ceux qui ont déjà vu le spectacle peuvent y retourner là.
Mais parce que je les change tout le temps. Je suis assez près du micro.
Oui.
je les change tout le temps, moi, mes spectacles. Donc, même le précédent, si vous alliez le pourtant, voir de 6 mois en 6 mois, c'est vrai qu'il y avait tout le temps
Mais pourtant, tout est fluide, tout s'enchaîne.
Mais alors, je coupe, j'enlève, je remets, je développe d'autres trucs. Parfois, je me rends compte qu'un bout de personnage...
Parce que le public a réagi différemment à telle ou telle vanne.
Moi qui suis quand même rigoriste, je dois bien me rendre compte et admettre que en one-man show, en seul en scène, cet échange-là avec le public, ce truc très vivant, il donne...
Il
Ah ouais, il donne à l'écriture. Quoi, enfin,
et pourtant, il y a bien une vanne qui peut fonctionner un soir et pas un autre, et inversement,
arrive. Oui. Ça arrive. Alors, il y a parfois des moments où vous devez vous battre. C'est plus sur des personnages que sur les vannes, finalement. Déjà, vannes.
Je crois... Pardon. Ah non, ok, d'accord. Mais je sais pas comment vous voulez une situation.
Non, mais vous avez raison. Effectivement, il y a des moments de texte qui fonctionnent à chaque fois.
C'est surtout sur
les personnages où des fois ça glisse. Et là, il faut travailler. Ça m'est déjà arrivé sur le précédent spectacle. Il y avait le personnage du vieux cabaretiste, je crois. Ouais. Pendant 6 mois, il était super là, pas là, super là. Enfin, c'était... Et après, bon, on a cimenté ça, on a réussi.
Du 21 décembre au 26 janvier, Folie Bergère, Alex Lutz. Des révélations maintenant, c'est l'heure de François. François!
Désolé, Nagui. Désolé. Aujourd'hui, c'est ganache. Je remplace François. François, il est souffrant.
Pourquoi?
Il a glissé dans le hall de Radio France et s'est empalé sur un piquet de grève, ce qui n'est pas pour lui déplaire, mais nécessite tout de même des soins délicats. Alors, garde à vous tout le monde.
S'il vous plaît.
Cher Alex, en tant qu'ancien du 1er régiment étranger de cavalerie, il a servi honoré, privilégié.
On n'a pas le temps,
Alors, premier étranger de cavalerie. En tant qu'ancien cavalier, disais-je, puisqu'on m'empêche de chanter, j'ai apprécié votre entrée en scène, à parler. Depuis l'arrivée à cheval de Georges Guettari dans Chic à Chiquito, opérette de Francis Lopez sur la scène du Châtelet en 1954, j'y étais. Ah là là là, Chic à Chiquito.
On n'a pas le temps.
Décidément, je ne peux vraiment pas chanter. J'ai jamais vu un prélude aussi inattendu.
C'est-à-dire?
Quelle maîtrise. Quelle assiette. Enfin, l'assiette, c'est quand on a une selle. Parce que là, c'est accru, sans selle. Comme mon régime. Je sais, c'est facile.
Seul.
Mais comme. Non, je suis seul, mais comme vous le dites dans votre spectacle, monsieur Lutz, le calembour est un art. Je ne suis pas si seul que ça. Car vous-même y avez recours quand vous vous écriez ça me donne des boutons. La pression. Bouton, pression. Mais revenons à votre cheval. Comme je disais à Daniel Morin que votre arrivée à cheval m'avait emballé, Daniel m'a répondu sèchement. Maréchal, je n'aime pas le rire, les humoristes et les comédiens qui ont eu un César. Alors autant vous dire que le Lutz, j'irai jamais le voir, même sur Equidia. Malgré ce commentaire un peu cavalier, je ne suis pas monté sur mes grands chevaux, j'ai pas pris le maraudant, car crottin ou pas crottin, c'est le problème. Il y a du crottin de temps en temps.
Par moment.
Oui, par moment. Il faut le ramasser. Vous ramassez.
Bah oui. J'ai mes gens.
C'est bien. Je peux vous dire que ce spectacle n'est pas de la daube et je peux qu'inciter nos auditeurs à y aller au trot, galop, ventre à terre, bride abattue. Et Leïla de m'approuver, juste avant l'émission, en me disant « Cher maréchal Ganache, la justesse extrême de vos métaphores équestres dénote une connaissance exceptionnelle du sujet. Autre chose que l'escroquerie gênante de Philippe Collin dans « L'œil du tigre », la seule émission de sport de France Inter. » Et Nagui d'ajouter « Il n'y en a qu'une, mais ça en fait surtout une de trop. » Voilà, filer le coup de pied de l'âne aux confrères, c'est aussi ça, la bande originale.
Et tu trouves ça beau.
De cheval.
Oh Alberg.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Évidemment, on rit énormément. Évidemment, on se pose les mêmes questions que se posent votre ou vos personnages aussi sur l'existence, sur la place, sur être carré ou pas être carré dans sa vie, dans son mode de pensée. Et puis, il y a des moments de réelle tendresse. Je pense à cette dame et cette infirmière, cette vieille dame et cette infirmière. C'est d'ailleurs le moment, je crois, où justement les frères Jacques sont évoqués. Oui. Et cette Mélanie, infirmière, qui est un vrai souvenir aussi du collège et une vraie fille dont vous étiez amoureux ou c'est
Oui, enfin je dis c'était la plus belle du collège, enfin celle qui avait déjà des seins. Mais
Ah oui, c'est ce que je dis,
ouais,
amoureux.
Mais oui, donc voilà, créé. Mais si je voulais avoir deux personnages complètement opposés comme ça qui se
Madame Irigeant.
Madame Mérigeant. À chaque fois, mes personnages, ils s'appellent Mary-Jean sur scène.
Madame Mary-Jean.
Mary-Jean, je peux pas vous dire pourquoi.
Pourquoi, ouais. Non.
Pas parce que j'avais écrit ça une fois, je me suis dit, c'est bien à chaque fois.
Ouais.
Donc, elle a été torturée, ses parents ont été déportés, elle a plus de frangin, plus de frangine, elle est cassée de partout. Mais elle garde un sourire permanent quand elle évoque tout ça. Et moi, j'en ai rencontré quand même des comme ça. Ça me bluffe à chaque fois.
Quelle est la part d'autobiographie dans toute cette histoire? Alors, que ce soit cette dame...
C'est rarement du copier-coller. C'est plus des morceaux de ce que j'ai pu ressentir associés à une idée. Et je me dis, tiens, ça pourrait coller avec tel type de personnage. Et puis après, je fais ma petite cuisine. Mais c'est vrai que des personnages qui ont... Enfin, des personnalités qui ont connu quelque chose d'absolument dans le corps, dans le cœur, dans tout, vraiment tragique et dramatique, de les voir dans une énergie de vie, dans un spectacle,
ouais,
quand même, avec des petites questions nombrilistes de la pression, pas la pression, enfin. Voilà, c'est aussi une manière de dire pousse les mecs, tout va bien. Voilà.
Oui, et puis après,
continuons à rire, quoi.
Et continuons à rire, et puis après, vous défendez aussi le pourquoi faut-il rire? Pourquoi faut-il rire absolument? Pourquoi on doit rire de tout?
Oui.
Pourquoi on se force peut-être même à se marrer?
Bah, oui, ça m'intéresse. Bah, forcément,
on peut même se poser la question ici dans cette émission.
Mais tout le temps, en fait, partout. C'est-à-dire que là encore, c'est une émission où on se divertit, on apprend des choses, on rencontre des artistes qui viennent.
Oui, artistes.
Invités, mais je veux dire. Il y a même une émission qui serait juste annoncée à un programmateur comme étant juste une de l'analyse politique. Il y a quand même de fortes chances qu'il y ait une attachée de production avec une pochette élastique peureuse qui dit ça serait quand même bien, peut-être un chroniqueur un peu décalé. Voilà, il y a un truc.
C'est le mal du siècle, c'est-à-dire d'ajouter de l'humour dans le genre.
Il faut qu'à chaque fois il y ait le décalage.
Vous l'expliquez, c'est une arme.
Bah, je crois que c'est positif, évidemment, parce que c'est une arme pour éviter de se taper sur la gueule et que c'est une politesse aussi, le sourire, c'est comme ça que je le développe dans le spectacle. Après, il y a quelque chose qui devient du coup une nouvelle pression sociétale où il faut se marrer tout le temps. C'est comme le peintre
rupestre
asiatique là, avec les grands sourires, comment ça s'appelle
c'est
que des personnages qui ont des sourires comme ça, presque
surdimensionnés.
C'est particulier quand même.
Le vous expliquez d'où vient le premier rire.
Ça vient d'un prout.
Voilà. Tout est parti d'un P.
Mais je crois que ça peut avoir existé, cette histoire-là. Moi, je dépose cette histoire. Alors, les historiens rigoristes ne vont pas être contents.
Non, mais moi, j'aime bien l'idée d'un monsieur prêt à tuer l'autre.
Prêt à tuer l'autre avec
un glaive. Et au moment où l'autre va se faire tuer...
Il pète de peur. Et l'autre, avec sa lance, quand même, ça le fait marrer.
Et il le tue pas.
Ah bah du coup il le tue pas. Ça lui a sauvé la vie. Il lui demande même de répéter. Parce qu'il trouve que c'est formidable. Là il veut pas. Donc il risque de se refaire égorger.
Ça s'appelle un bis repetita.
Repetita, tout à fait.
Et après il le raconte.
Et après il le raconte
aux membres de sa tribu.
Bah il le raconte aux membres de sa tribu et tout ça dans une langue qui n'existe pas.
Entre
eux. Parce que je me suis dit, tiens, un homme préhistorique, ça devait parler comme ça.
Absolument. Entre le prout et le rire, on a choisi Jérémy Crévy.
Ah bah, c'est tout trouvé.
Voilà. Vous le savez tous,
tu as l'antenne.
Ah pardon. Vous le savez tous, aujourd'hui sort le dernier épisode de la saga Star Wars, mais comme je savais pas s'il y avait grève ou pas, je vais vous parler d'autre chose.
C'est la belle nuit de Noël. Mamie sera bourrée au blanc. Et la bûche de tonton Marcel, ce sera sa teub évidemment. Les cadeaux ne vont pas tous plaire. Et le bêtisier n'est pas super.
Putain, alors que ça m'angoisse.
Le réveillon de Noël, chaque année il est pareil.
J'aurais pu être prêtre.
Le lendemain on est ballonné. Et le soir on doit encore manger. Ça me donne envie de mourir.
J'irai au bout de la chanson.
Les huîtres me font vomir. J'en ai marre de tout ce foie gras. Sa famille, on ne la choisit pas.
Non, on va arrêter là. Je suis
au bout. La musique était bien, les paroles. Oui, ok.
Tellement bien.
Non, ça donne envie, je sais. C'est ce qui nous attend en famille dans moins d'une semaine. Sinon, tu peux avoir. Bah, elle est où, tata? Je sais pas. Et tonton? Pas vu non plus. Grand-père, papa, les cousins, les cousines? Non, aucune nouvelle. Ça, c'était Noël dans une famille de dinde. Un brin. Un festif, un peu plus festif. Ah, Noël. La plus grande fête de l'année et l'occasion d'un petit étonnement. Voilà, bon, c'était un petit étonnement. Non, plus sérieusement, pourquoi dans un pays laïque, on base encore les grands événements festifs sur le calendrier chrétien ?
C'est vrai.
Alors, vous inquiétez pas, c'est juste Christine Boutin qui a fait un AVC au volant en entendant la question. Rien d'important, on continue, prenez la 6. Quand on regarde bien, donc déjà on voit mieux, mais quand on regarde bien Noël, les mairies dépensent l'argent public pour décorer les rues. Et il y a des maires qui se prennent vraiment pour Jean-Michel Jarre. Moi, j'ai un ami épileptique, il n'ose plus sortir après 17h. À Pâques, il y a du chocolat partout. Mon ami épileptique étant aussi diabétique, l'année dernière, elle a fait une hyperglycémie juste en passant devant la vitrine de À la belle miche, une boulangerie. Je salue d'ailleurs Nicole, la boulangère qui avait trouvé le nom, séparé depuis de Thierry, qui a mis une petite pétée à la vendeuse derrière le four à pain.
Merci.
Non mais, depuis Nicole a ouvert une autre boulangerie avec son pain star, Thierry le gros bâtard. En parlant de cul, revenons-en au culte.
Oh, quel enchaînement!
Raymond DeVos, mon grand-père. Pour l'épiphanie, c'est galette des rois à gogo, hein, dans les cantines scolaires. Mon ami épileptique et diabétique a eu la fève. Il est devenu roi, on lui a coupé la tête. Décidément, il n'y avait vraiment pas de bol. Et pour les grandes dates des autres cultes, rien. Kutch, nada, Nagui. Nagui, c'est moins que rien. Je pense que par égalitarisme et par respect, il faudrait célébrer en aussi grande pompe les principaux événements des autres religions. Hey! Musulmans, musulmans, musulmans d'hiver. Quoi ? Je propose. Pour le ramadan, la France entière arrête de bouffer pendant un mois. Hein, quand je vois l'état de certains ici, ça ferait pas de mal à tout le monde. Pour Yom Kippour, on donne 2 semaines de vacances à tous les enfants. On accroche des guirlandes de prépuces qui clignotent sur les sapins devant les mairies, sauf le vendredi et le samedi. Hein, on respecte un petit peu. Et puis, bien sûr, pour la grande célébration annuelle des témoins de Jéhovah, comme d'habitude, on fait comme s'ils n'étaient pas là. Un peu d'égalité. Vous voyez, à la radio, moi, je vais entendre des pubs pour tout le monde. La météo, avec les chapons fermiers du Gers. Ok, je veux bien. Mais alors, donnez-moi aussi du le sport, avec les boulettes de Madame Cohen. Ou bien, retrouvez notre flash infotrafic avec le tagine de Mokhtar. Oui, c'est mieux. En tout cas, que vous soyez chrétien, musulman, juif, bouddhiste, scientologue, témoin de Jéhovah, d'un accident ou d'un mariage, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, de belles fêtes tout court, ou plus simplement pour tout le monde, de belles années à venir.
Bravo, Jérémy
Crémy. La bande originale.
Il a cité son grand-père spirituel, Raymond DeVos, que vous imitez.
Ah oui.
Enfin, j'imite mal.
Ouais, c'est ça qui est drôle.
Puisque c'est ça qui est super. C'est super du loupé, drôle. Je loupe même mon imitation de Raymond DeVos.
Ouais, pas tant que ça, parce que c'est d'un coup, il y a plein d'images, moi, qui me sont revenues.
Ouais, c'est
ça. Une espèce de éberlué tout le temps.
Ouais, et puis
les cheveux en arrière, à partir de boutons pression.
Ouais, ouais, à partir du jeu de mots.
Tout à l'heure.
Exactement. Et dégoulinant toujours de transpiration. Au grand échiquier, il était toujours en nage.
C'est vrai. Et c'est des images de gosses, quoi, devant la télé.
Absolument.
Et ça faisait partie aussi, d'ailleurs, moi, quand j'étais gamin, d'un truc où c'était un peu refus d'obstacle. Et après, je me suis dit, bon,
encore
allez,
une image de cheval.
Oui, exactement. Je me suis dit, allez, fais fi du poids, de la sueur
et de la scie. Il en jouait super bien.
Et en fait, après, évidemment, c'est magnifique.
Très bien. Bah, tiens, à propos de musique, et alors, vous ne faites pas la scie que jouait Raymond DeVos sur scène, mais il y a.
Ah, c'est vachement bien, je viens de comprendre.
La scie, ouais, chien fidèle, ouais, absolument. Mais il y a de la musique, notamment le slow avec Mélanie.
Ouais, avec Mélanie Capuchon.
Metallica.
C'est
pas, vous n'avez pas choisi Metallica par hasard, ça, forcément, c'est un choix.
Parce que je trouve que c'est l'incarnation de votre... du slow, quoi.
Ah non, il y a Eagles, Eagles Hotel California.
Eagles, oui. Oui, c'est vrai. Il y en a quelques-uns. Et il y a le début. Oui, oui, oui.
Et puis il y a Simon Garfunkel aussi.
Ah oui, c'est vrai, je pleure comme un veau. Paraît-il qu'ils ne s'entendaient pas, dis donc. Enfin, qu'ils ne s'entendent pas, ils ne sont pas là. Ouais.
Plus. Et à un moment, ils sont super bien entendus.
on m'a dit que pas tant que ça. Même dans le côté on est vraiment frères tout le temps. Eh ben, en fait, pas trop.
Vous savez comment il s'appelait avant de s'appeler Simon Garfunkel?
Garfunkel et Simon?
Non, non. Moi, quand j'étais petit.
Bon, bah, c'est tout pour lui. Merci, c'est Jérémy Crémy, au revoir.
Salut.
Non, je blague. Il va rester. Non, mais
je veux partir. Mes premières applauses.
Quand j'étais petit, je pensais qu'ils étaient trois, Simon, Edgar et Funkel. Mais c'est vrai.
C'est vrai. Non, il s'appelait Tom et Jerry.
Mais non.
Ouais, j'ai déjà pris, donc ils sont changés.
Exactement. Il s'appelait Tom et Jerry.
Et toi, tu t'appelles comment?
Le duo. Moi, je vais te donner mon nom, tu vas voir, je vais te graver sur ton front. On y va! Avec la bande originale.
Esprit de Noël!
Cadeau! Ah, la bande originale dans la vie d'Alex Lutz. Je rappelle qu'il sort à partir du 21 décembre au Folies Bergères jusqu'au 26 janvier. Vous écoutiez comme musique fin des années 90. Nirvana. Vous êtes très rock dans vos goûts quand même, parce qu'on parlait de frère Jacques tout à l'heure, là, Metallica sur scène, Nirvana en souvenir.
Oui, enfin plutôt oui a priori. Mais j'ai pas de...
Style.
Non. Mais oui, quand même le rock, oui. ça me fait
cette chanson
Kurt Cobain,
vous...
oui, non, ouais. Oui. Toutes les filles qui pleuraient.
Mais il est mort.
Donc voilà. Et on était tous un peu sales pendant 6-7 mois.
Ouais. Ouais, c'est le grunge, c'était les chemises à carreaux, les cheveux sales, c'est ça?
Ouais, donc on avait tous des espèces de jeans qui habillent.
Ouais.
et des chemises à carreaux, ouais. Voilà, et qu'on ne lavait pas trop pour ressembler vaguement à Kurt Cobain. C'était du coup des adolescents qui puaient et qui ne ressemblaient pas du tout à Kurt Cobain.
Des ados, quoi.
Des ados, quoi. Ouais. On est en 96 et 96, vous créez votre compagnie, le coup de la pomme.
Ils râlent en face, ils
ont raison. Attends, on se lave. Je me suis lavé.
Non, mais là,
lave
plus que toi. Non, mais là, c'est des filles. Ça se lave.
Ouais, il y a des gars derrière qui ont fermé leur gueule.
Ah, voilà, c'est ça. Il y en a un qui
se regardé dans leur portable et se sont dit attends,
les filles, ça se lave pas toujours.
Enfin.
Bah pas toujours.
Bah, plus souvent quoi.
Pas toujours.
Mademoiselle, plus souvent. Ouais, plus souvent.
Une fois par semaine.
Allez, hop, c'est vendu.
Bah ouais.
Ouais, bah ouais.
Bah ouais, attends.
Bah ouais,
ouais. Je suis dans mon comportement.
C'est quoi ces clichés? C'est quoi ce
jugement? Ah non, c'est pas genré, c'est
genré, totalement genré.
C'est pas genré, c'est un raisonnement chipolata, ça.
J'ai dit plus souvent.
Et la planète, putain.
Les filles sont propres, les garçons sont sales. C'est honteux.
Arbitraire.
Nagui, restez.
J'ai dit plus souvent. Les filles se lavent un peu plus souvent que les garçons. Ça, je sais pas aller voir. En 96, Alex Lutz, vous créez votre compagnie Le Coup de la Pomme, où vous créez plusieurs spectacles, vous développez plusieurs spectacles.
En fait, le coup, c'est le prix, hein, c'est ça?
Ouais. Ouais. Pourquoi ce nom-là?
Alors, je sais plus.
Encore?
Non, je sais plus. On avait monté un texte de Brecht avec l'achat du fer, ou je sais pas quoi. Il avait des titres un peu comme ça, et je crois qu'on s'en était inspiré pour se la péter un peu.
D'accord, ok. Parce que finalement, la mise en scène.
Donc, c'est une espèce de titre brechtien, ouais.
Oui,
que personne
ça faisait intelligent.
Ça faisait intelligent.
Ouais, parce que la mise en scène, vous y venez finalement grâce à votre mère. Juste très peu de temps avant.
Oui, parce que j'avais fait un an ou deux ans de théâtre, et elle était prof dans une école de commerce, et cette école de commerce avait créé un atelier de théâtre. Et ils avaient oublié de prendre un metteur en scène, et ma mère m'avait dit, m'avait inscrit, et après. J'ai dit, mais je peux pas, j'ai que deux ans de théâtre. En plus, je faisais du théâtre le mercredi. Enfin bon. Et elle me dit, ah, maintenant je t'ai inscrit. voilà. Et donc, du coup, bah, je me suis retrouvé à mettre
très
en
belle
scène,
imitation de maman.
Ouais. C'était des adultes, quoi.
Ouais.
Mais c'était chouette.
Et finalement, vous y avez pris goût, au point de créer cette compagnie, quand même.
Ouais,
c'est
ouais,
pas,
ouais. Oui, très vite. Et puis en plus, très vite, je me suis dit, tiens, tu vas quand même faire partie des acteurs mal dégrossis. Ça va mettre du temps, cette histoire. Donc écris, mets en scène et accroche des
décors,
des projecteurs. Ouais.
De reparler tout ça, est-ce que le papa que vous êtes reproduit les mêmes schémas que ceux que vous avez vécu avec vos parents? C'est-à-dire vous décidez aussi, vous imposez, vous rêvez de certaines choses pour vos
enfants? Non,
vous les inscrivez alors qu'ils veulent pas y aller? Enfin.
Bah déjà il est tout seul, donc ça c'est bien. Ça fait moins de boulot,
ouais, de charge mentale.
Mais c'est déjà une charge mentale tellement dingue. Et non, je suis sévère, je crois, et plein de principes.
Sévère ou strict, c'est pas pareil.
Je dirais strict, en tout cas. Voilà.
Okay.
Voilà.
Carré, violent.
Non, mais j'aime bien. J'aime bien qu'il ait. J'aime bien.
T'as dit quoi, Daniel?
Violent.
Non, mais j'aime bien qu'il ait des principes cons auxquels se rattacher autant que des trucs super de confiance et de machin. Mais. Moi, je me suis construit aussi avec des principes cons, et c'est important. Des
non, mais c'est pour ça que je parlais d'être strict plutôt que sévère.
Je déteste l'idée qu'on doit être juste des copains de ses enfants et que c'est super, parce que ça voudrait juste dire que on veut être absolument aimé. Donc c'est encore un truc sur nombriliste avec un métier plus nombriliste que le mien. Tu meurs. C'est quand même bien à un moment donné d'être, de pas provoquer un antagonisme avec son gamin, mais de dire bah pourquoi pas, parce que c'est comme ça sous mon toit
et il y a
que
des
c'est
règles. Comme
ça ouais. Et que c'est quand même des repères. Après il fera ce qu'il veut, il dira bah ça je trouve ça.
Mais je pense que c'est rassurant pour un enfant de savoir qu'il y a des règles. Après ouais. À lui de les repousser, de les dépasser, ouais. De
se négocier. Et même des règles.
Non, puis même de se libérer ensuite.
Bien sûr, même des règles. Non, moi je me souviens ma mère. Regarder la télé avant 15h, c'était le ouais. Diable à la maison. Ouais. Bah, évidemment que j'en avais rien à foutre dès qu'elle avait le dos tourné. Mmh. Évidemment que dès que j'ai eu 20 ans, j'étais ah putain, je regarde Teva.
aujourd'hui, ma date, c'est génial.
Mais je suis content d'avoir eu ça. Ah, ça ouais. Et puis ça me fait connaître une personne.
Ça fait un cadre.
Ça me fait connaître ma mère, ouais. Ça me fait connaître mon père pour ce qu'il est. Ça me fait... mmh. Je trouve ça important. Mmh.
Ouais. En 2007-2008, vous écoutiez Frank Sinatra.
Fly me to the moon. Ah bah ça, c'est pour lui, justement. Let me play. Non, ouais, pour mon fiston, en fait. Let me see what spring
is like on Jupiter. Quel rapport entre votre fils et cette chanson de Frank Sinatra?
Non, mais en fait, c'est une de mes harmonies préférées. Et ah, qu'est-ce qui se passe?
Non, rien. Je,
vous
je,
faites un coucou
si,
en même
si
temps.
Je fais un signe, c'est parce que je ne veux pas parler, donc c'est pas pour parler.
Ah,
je
peux aider monsieur avec son casque. Pourquoi cette chanson? Ouais, merci. Voilà, pourquoi
ah oui, pourquoi cette chanson parce que c'est une de mes harmonies préférées.
Ouais.
Et je la chantais sur le ventre de.
Ah, sur le ventre,
quand
ah,
ouais. Mais je la trouve très. En plus, il y a plein de versions, il y a des versions, il y en a énormément. Et je trouve que c'est une des plus chouettes et parfaites petites harmonies. Enfin, l'harmonie, elle est géniale.
C'est dur à chanter.
Oui, ouais, mais ouais. c'est presque une berceuse quoi.
Et il est sensible à cette chanson parce que vous l'avez chantée.
J'en sais rien, je me raconte forcément que s'il oui. entend la voiture son cœur vibre, je pense qu'il en a un fou.
Mais... Et puis de toute façon, il s'en fout, il faut des repères, il faut des repères. Hein.
Ah, tu entends, c'est Play Me Too. Ouais.
T'aimes pas, je m'en fous.
Dans ces années-là, Alex Lutz, on vous retrouve dans la bande à Palmade.
Un traître sur France 3.
La bande à Palmade.
Oui.
Vous vous souvenez?
Enfin, sur France 3, vous voulez dire.
Ouais,
oui.
Ouais, c'est ça.
Oui, bah,
pour
oui,
l'émission Made in Palmade.
Ah bah ouais, c'était super.
Il a choisi un certain nombre de comédiens, c'est ça? Comment ça s'est...
La troupe.
En fait, moi je l'ai connu par Sylvie Joly, quand je mettais en scène Sylvie Joly.
Évidemment.
J'avais co-écrit son ouais. dernier spectacle. Il cherchait des acteurs, et moi j'étais avec lui et Christophe Duturon mm-hmm. pour choisir faire des auditions, donc on avait choisi des acteurs. Et de tous ces acteurs, on faisait des ateliers au début.
Donc c'était quoi, directeur de casting pour Palmade?
Non, bah en fait, Christophe Duturon, Pierre et moi, on avait chacun un groupe et on les faisait travailler. Puis après, tous les 3 mois, on changeait.
D'accord.
Mais on savait pas trop à quoi ça allait servir. C'était juste de faire travailler comme un club de sport de
oui.
texte.
D'accord.
Et puis c'était beaucoup d'acteurs auteurs et tout. Dans ces groupes-là, il y avait Anne-Elisabeth Blateau, il y avait, voilà, plus tard, il y a eu Camille Cotin, etc. Donc moi, j'ai pas eu à diriger avec Pierre, mais et puis après Pierre a dit mais j'ai quand même envie de tirer quelques-uns que j'apprécie dans ces
pardon
différents groupes vers la scène. Ah pardon, oui,
bah oui.
Et donc il a écrit il réfléchissait à écrire une pièce, et avant il y avait cette émission de télé ouais. sur France 3 où on devait livrer des sketchs toutes les semaines. Non, c'était un très beau souvenir. C'était du travail tout le temps, c'était très agréable.
Et vous allez mettre en scène Pierre Palmade, et la même année vous
ouais,
allez...
Oui, puis la découverte de la télé aussi,
ouais.
et du travail
ouais.
de la télé.
Ouais,
ouais, ouais, c'était chouette de devoir livrer par semaine des sketchs. Et puis d'être dans une réalité de troupe un peu. Moi, ouais. ça me faisait du bien d'y retourner.
Et c'est à ce moment-là que vous montez sur scène aussi, pour votre one-man show Triple Lutz.
Voilà, c'était au tout début de
ouais.
ça. Vraiment, à partir du travail avec Sylvie Joly, ces deux, trois choses-là ouais. se sont mis en place.
Mais Catherine et Liliane ne sont pas nées, ou l'envie de faire de la télé, ou faire de l'humour à la télé n'est pas née à ce moment-là.
Non, parce que je voulais pas faire de l'humour à la télé.
C'était antinomique pour vous, c'était deux choses qui n'allaient pas ensemble.
Ouais, alors dans l'émission de Pierre, je trouvais ça super, parce que c'était des sketchs, basta, avec des situations.
Bah, Catherine et Liliane, c'est
voilà.
super aussi.
C'est super, mais je ne pensais pas que j'allais parler d'actualité. Moi, on me demandait souvent, est-ce que tu veux pas faire un billet d'actualité? Je ne sais pas quoi raconter. J'ai mon avis, mais enfin, ça va être sinistre si j'en parle. Enfin, donc ça. Ouais. Et puis tout d'un coup, quand on a trouvé avec des personnages,
l'idée.
Ouais. Voilà, si j'ai des personnages, alors là, ça va. Et c'est vrai que quand on a créé Catherine et Liliane, on avait le rapport, on avait ces deux nanas, on avait leur histoire, et du coup. C'était même très 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 intéressant de pouvoir parler de tendances d'actualité, de parce que je savais où elles étaient, je sais
Et parce que c'était des femmes, c'était tout était permis, tout était plus facile possible que si c'était de
bah tout
de
était
vieux ou de
bah tout était permis, tout était
Ça aurait pu être deux vieux comme les deux vieux du Muppet Show.
Ouais, mais c'était bien que ce soit des femmes. Et puis.
Oui, mais je veux savoir pourquoi justement.
Ah bah parce que nous on aimait bien.
Ça
Bruno
permet quoi
moi,
de plus?
Ah bah de révéler une féminité, c'est important. Enfin moi je voulais pas. Il s'agissait pas de mettre mal une perruque et des gros seins avec des oranges
et des bijoux.
Un soutien-gorge
et des bijoux nuls
en faisant des singeries d'hommes qui font des femmes. Il fallait des femmes.
Et la coiffure de Nicole.
Et voilà. Mais je voulais que déjà j'avais dit à Bruno, il faut qu'elles aient les cheveux courts, il faut qu'elles aient un look pratique,
androgyne,
mais douloureux quand même, c'est-à-dire
douloureux.
Bah douloureux parce que c'est intéressant parce que je me souviens que des fois on était entre guillemets malheureuses du choix de nos vêtements. Et ce malheureuse-là, j'en suis convaincu, n'est pas le même malheureux que nous quand on choisit des vêtements. Ouais. Hélas, encore maintenant, ça dit plein de choses. C'est-à-dire que à partir de petits points de détail, ça nous a permis de parler évidemment de l'actu, de nous amuser, et puis d'être un porte-voix modeste pour les femmes aussi. Mmh. Mais c'était important pour nous. C'est un souvenir dingue. On ne pensait pas que ça prendrait ce chemin-là, en plus. Non.
Dernier titre, et c'est encore du rock, en 2016, vous écoutiez Meat Loaf avec I Do Anything For Love. J'adore.
C'est du rock et du sucre et ouais. C'est, j'ai un pantalon de cuir, j'ai une moto, j'ai de la fumée, j'ai un aigle.
Je suis.
Je trouve que c'est avec cette musique qu'il faut aller au travail, je trouve, dans la vie.
Ça donne envie de se battre.
Et puis, il s'appelle meatloaf, c'est-à-dire que c'est la notion de viande.
De morceaux de viande.
Paquet de viande, exactement, si on traduit meatloaf littéralement.
Et 2016, c'est une très belle année. Ce sont les Molières, pour le Molière de l'humour. Et puis, c'est trois films aussi. Vous êtes à l'affiche de trois films, trois longs métrages.
Ça va, oui.
Ouais, et il y a votre one-man show aussi, cette même année-là.
C'était quoi les films, alors?
C'était Paris, Willoughby.
Willoughby.
Oui.
Il y a eu aussi Les Visiteurs.
Oui.
Oui.
Et un petit boulot
de Chomeil.
Ah, de Pascal Chomeil.
Vous avez oublié ou quoi? Pourquoi vous l'avez demandé?
Non, c'était pour savoir dans les années de sortie, je savais
plus.
Ah,
d'accord. Quand c'était sorti.
D'accord.
Oui,
Pascal
Chomeil, ce ne sont pas les années de tournage.
Non, c'est ça.
C'est ça, la
différence. Et Paris Willoughby, c'est drôle parce que c'est un petit film très mignon, ce qui a été co-réalisé, ils étaient à deux.
Quentin Reynaud et Arthur Delerre.
Et Quentin Reynaud, je viens de le retrouver là, je viens de faire un film avec lui. Que j'ai adoré faire.
C'est deux beaux films. Si j'oublie Les Visiteurs, La Révolution, voilà, c'est autre chose. C'est pas la même ambition. Non, c'est pas la même ambition.
C'est pas la même ambition. Nous, on s'est amusé comme des fous avec nos perruques sur la tête.
Mais en tant que spectatrice, moi, j'avais beaucoup aimé et Paris Willoughby et Un petit boulot.
Parce que c'est vrai que c'était une année dingue. En plus, les Molières, mon producteur m'avait proposé à la présentation. Donc je m'étais dit, allez hop, on l'a fait.
Et
d'avoir le prix au moment où ça fait un drôle d'effet.
Nous recevons Thibaut de Saint-Maurice. Bonjour Thibaut, vous êtes philosophe essayiste, vous avez une chronique hebdomadaire sur France Inter, La Petite Philo, tous les mercredis à 10h35, dans Grand Bien vous fasse de l'ami Ali Ribéi, vous êtes auteur en 2019 des Philosophes et des Héros, petite balade en philosophie à travers nos personnages favoris, c'est aux éditions First. On voulait prendre le prisme du doute qu'il y a finalement dans le personnage d'Alex Lutz sur scène. Est-ce que le fait de douter, c'est notre manière d'exister.
Ah oui, c'est essentiel parce que en fait, douter, c'est d'abord être celui qui va se poser une question et prendre conscience de quelque chose.
En fait, genre de qui suis-je, où vais-je.
Oui, exactement, parce que au contraire, il y a rien de pire en un sens que les gens qui ont aucun doute. C'est des gens qui foncent, qui se posent pas de questions, ils croient savoir. Et donc, commencer par...
Mais pourtant, pardon, c'est super rassurant, quelqu'un qui...
Ouais, c'est super flippant aussi.
Un chirurgien,
j'ai un doute.
Le fil bleu, le fil rouge, je sais pas.
On est quand même content de mecs qui ne doutent pas.
Oui, alors il ne doute pas parce que précisément il a fait ce travail de formation, d'assurance, qui fait qu'il est sûr de ce qu'il sait faire. Et en même temps, c'est précisément...
Il a eu besoin de douter avant.
Voilà, et c'est aussi ce genre de personnes très assurées dans leurs gestes professionnels qui, dès lors qu'il y a une difficulté, justement, sont prudents. Et ça, sont capables d'identifier la difficulté. Mais pour revenir sur votre question, c'est évident, c'est-à-dire que douter, c'est commencer en fait à tout d'un coup créer une sorte de virgule dans l'existence. C'est-à-dire tout d'un coup, ouf, on respire, on s'arrête. Et singulièrement, enfin voilà, c'est-à-dire que c'est comme en doutant que notre ami Descartes hein, arrive à cette fameuse conclusion du je pense donc je suis, hein, puisque c'est en fait
donc je doute donc je suis.
Mais oui, parce que en fait l'argument est tout simple. C'est-à-dire je peux douter de tout. Absolument tout. Je peux même douter que j'existe, je peux même douter qu'il y a un monde, sauf que au moment où je continuerai de douter, je continuerai de penser, et comme je ne peux pas penser sans exister, alors au moment où je doute, je pense que je doute, donc j'existe.
Mais il avait beaucoup de temps libre, ouais. Descartes.
Mais c'est impensable de ne pas douter, en réalité.
Bah, disons que ça...
J'ai un doute, là.
Ouais. Pas mal. Ça interroge notre rapport vraiment à notre propre certitude, à notre propre assurance. C'est-à-dire que on peut avoir des doutes sur, je sais pas, qui va gagner tel championnat du monde, si la réforme des retraites c'est bien, etc. Et puis il y a un truc qui est aussi le doute de soi-même. Mm-hmm. Et par exemple,
c'est pas le même doute.
Mais non. Et c'est par exemple, c'est comme ça que commence le spectacle d'Alex Lutz. C'est qu'il y a des grandes questions comme ça. On dit mais pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait? Pourquoi est-ce qu'on se colle la pression? Pourquoi est-ce qu'on s'interroge sur la performance, etc. Mm. Et on sent aussi que c'est une interrogation qui petit à petit se retourne vers lui-même. Mm-hmm. En fait, c'est-à-dire aussi pourquoi est-ce que moi je suis complice de ça? Pourquoi est-ce que finalement voilà, j'adhère et pourquoi est-ce que je ne questionne pas suffisamment, etc. Et donc, on peut avoir des doutes et puis il y a cette continuité qui se tisse vers le doute sur soi-même.
Oui, alors le problème, c'est que c'est le même mot pour deux choses totalement différentes, c'est-à-dire douter de soi, se remettre en cause et peut-être même, c'est notre manière d'avancer, de progresser, de mieux se connaître ou d'apprendre pour chercher peut-être une perfection ou en tout cas une évolution. Et puis, il y a douter de tout, c'est-à-dire douter de la Terre est ronde, douter d'être allé sur la Lune, douter de ceux qui remettent en cause des vrais moments de l'histoire et qui nient cette histoire. C'est quand même bizarre d'employer le même mot.
Oui, mais alors c'est pour ça qu'on fait de la philosophie, hein. C'est pour distinguer. Voilà, on distingue le sens d'un concept.
Moi, et je ces gens-là doutent plus vraiment.
Mais voilà,
en fait.
Moi, au fond, je suis pas certain que ce qu'on appelle les gens qui sont complotistes, qui sont dans la négation, etc. Je suis pas certain qu'ils doutent. Au contraire,
ils ont des certitudes.
Voilà, exactement, dans une forme de certitude absolue, et que il y a une forme, au contraire, de refus. Justement de l'interrogation, par exemple quelqu'un qui est un grand scientifique, c'est quelqu'un qui doute systématiquement de ses hypothèses, qui est prêt en fait à les remettre en question et à faire en sorte que une nouvelle expérience changer tout ça.
Est-ce que le doute peut pas finir par paralyser aussi, c'est-à-dire que comment établir le curseur, la limite, la frontière entre c'est bien de douter parce que on n'est pas dans la suffisance de croire tout connaître, et en même temps, ceux qui doutent, ils traversent jamais la rue en se disant je vais faire écraser, quoi.
On fait comme dans le spectacle d'Alex Lutz, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on y va. Et on y va pourquoi? Parce qu'en fait.
C'est pas grave de se tromper.
Oui, et puis surtout parce qu'il y a les gens qui sont là. C'est ce que vous dites, c'est-à-dire le plus important, c'est que vous soyez là, et en fait, on va passer un moment ensemble, et puis on va y aller ensemble, en fait. C'est-à-dire que le doute, c'est aussi une activité qui est très solitaire. Et souvent, on est rassuré, justement, où les doutes se lèvent quand on peut, ou moins, ou bien les partager avec des proches, ou bien tout simplement se dire, je les mets de côté parce que là, je veux profiter, en fait, de ceux qui sont.
Non, mais pardon, il y en a qui font des dépressions. sincèrement.
Certains aussi. Font des dépressions.
Ouais.
Oui, non, mais après, le doute, le fait d'agir ou pas, ça dépend de la décision à prendre. Parce que, je veux dire, là, traverser la rue, ou en tout cas, aller au bout d'un spectacle, au pire, mais les gens n'aiment pas,
tu peux prendre aucune décision à force de douter.
C'est aussi lié à l'époque, je crois. Je me permets, mais c'est aussi.
C'est un peu pour toi.
Si c'est pas un élément de crainte absolue, le doute, c'est pas très grave. C'est pas très grave de se tromper.
C'est même bien de se tromper parce qu'on apprend.
Effectivement, le chirurgien, s'il est la merde, c'était la horte.
On est d'accord.
Et encore, ça peut apporter quelque chose, on sait jamais.
Moquer d'un exemple que j'ai pris, j'aurais pu prendre un autre exemple. Le pilote de ligne, le gars qui a 350 vies derrière lui, s'il se met à douter, il peut tuer 350 personnes. Donc il y a des moments où il ne faut pas douter et on finit par admirer aussi ceux qui vont, qui repoussent ses limites, qui ont une espèce d'assurance de warrior comme ça, de winner.
C'est l'ultra performance aussi.
Mais ouais.
Ouais, mais je crois que c'est quand même le fruit de doutes évacués et de choix qui se font dans du questionnement, quand même. Je ne pense pas qu'un mec qui a créé le parachute
s'est dit, tu sais quoi, je prends une nappe.
Allez. A priori, il a évacué tout un tas d'éléments.
C'est Léonard de Vinci, non, qui. qui a eu l'idée du barrage. Non, je me trompe.
C'est l'espèce de truc ailé, là, un petit peu.
D'ailleurs, il y a un mec qui s'est cassé la gueule de la Tour Eiffel.
De la Tour Eiffel, du premier étage. Ouais, absolument.
Il n'avait aucun doute.
On est d'accord, il y a un côté presque super-héros de celui qui ne doute pas et qui réussit.
Ouais, et alors, oui, mais c'est une sorte d'heureuse surprise. Je pense qu'on est plus admiratif de la conviction et de la fermeté qui naît justement de cette grande phase préparatoire de doute, de remise en cause, etc. Je pense qu'en fait, on est admiratif du fait que le fait de douter, de se remettre en question et de s'interroger peut nous conduire ensuite à une forme d'assurance déterminée. Choix, ouais. Exactement.
Oui, mais après, on pouvait vouloir remettre ça par-dessus.
Merci, Daniel.
Oh, Daniel. On avait une réponse. C'était super.
Ouais, mais incomplète.
Des philosophes et des héros. Petite balade en philosophie à travers nos personnages favoris aux éditions First. Merci, Thibaut de Saint-Maurice, d'être venu à ce micro. Merci. Tanguy Pastureau, vous aimez la nudité.
Oui, c'est tellement agréable.
Ouais.
D'ailleurs, à l'échelle de l'humanité, on a plus passé de temps à poil qu'habillé quand Albert Algo a débuté dans le métier, au Paléolithique. Les gens étaient nus plus tard. Dim a créé le slip. Et pour 2020, la moitié des calendriers sont des calendriers de nu. Ah,
nous en parlerons après les infos de midi. La bande originale avec les lettres de Boudanis, Daniel Morin, Albert Algou, Jérémy Créville, Tanguy Pastureau et notre invité Alex Lutz.
Bravo.
Déjà formidable et toujours vivant, c'est quand même dingue.
Bah ouais, c'est
toujours vivant, toujours debout.
Le mec est super. Tu dis n'importe quoi, il chante une chanson, Jérémy Créville, c'est toujours. Toujours. Avec ce spectacle qui est à la fois évidemment drôle, émouvant et on l'a dit, qui fait réfléchir, qui donne à réfléchir d'ailleurs. Vous avez, c'est votre, comment dirais-je, c'est votre patte de vouloir mélanger comme ça à la fois des valeurs, à la fois évidemment de l'humour, du classique et une part un peu de vous. C'est votre recette. Il faut se distinguer des autres avec une manière de faire différente.
Non, enfin se distinguer des autres, non, parce que sinon ça fait vraiment non. Mais imposer coûte que coûte son univers, ça oui. Je crois. Mm-hmm. Même si ça doit être plus long ou plus... Et moi, je suis content parce que quand même, avec les années, au bout d'un moment, ben, le public est venu au rendez-vous. Non, mais voilà, c'est chouette de faire ça. Et puis, non, effectivement, je suis très content de faire de l'humour, mais j'aime bien quand il y a aussi de l'émotion, cette alternance-là, pour moi, elle est trop importante.
Et des valeurs, le discours que vous tenez sur les femmes, sur l'égalité, sur le côté genré, celle qui est perdue devant sa boxe et qui pourtant est une femme à haute responsabilité.
Qui pleurniche au téléphone avec son mari et qui est quand même avocate d'affaires internationales.
Voilà. Et après, quand même, vous rétablissez votre.
Oui, bah oui, les gars s'en prennent, les femmes s'en prennent. Enfin, dans ce sketch-là qui est très long, en fait, c'est juste que j'aimerais bien qu'on arrête. Enfin, je trouve qu'il est temps de. Mais j'invente rien. Hein. C'est tout à fait dans la tendance, mais c'est plutôt chouette de casser nos masques de monsieur et nos masques de madame.
Et c'est bien que les femmes. Et c'est bien que les femmes l'ouvrent, comme vous dites en ce moment, quoi.
Qu'elles l'ouvrent et que pour une fois on la boucle et qu'on écoute.
C'est ça. Et le sexe de l'homme.
Ah.
Bah, il est. C'est vrai que je le défends un peu. Ce zizi.
Bah dit comme ça, voilà.
Et je dis juste, ça, il faut venir voir le spectacle.
T'as trouvé des réponses, Nagui?
Ce mec
qui
chie, il pète. Non, de son zizi, tu parles d'un fond. Non, mais oui, je trouve c'est un camarade sympathique, quoi. Enfin, il est chouette.
C'est ça.
Pas le choix en même temps.
Allez, bah oui, il est là.
Il est là, autant lui parler.
On peut jouer avec.
Non, c'est extrêmement drôle. C'est-à-dire, c'est de vous le mimez et c'est extrêmement drôle. C'est à partir du 21 décembre. Je vends le spectacle comme je peux.
Le vent est perdu.
Vous le mimez.
À partir du 21. Mais oui,
j'ai entendu.
Oui, sur j'ai vu.
On est parti de papier qui vient de ton pour arriver sur le zizi.
À partir du 21 décembre jusqu'au 26 janvier, l'enchaînement est tout trouvé. On parle d'Alex Lutz et du sexe. Et maintenant, nous allons voir si habillé ou pas, ce qui va se passer avec Tanguy Passion. Hey, Tanguy, ouais, touchez vos vêtements, vous êtes habillé ce midi.
Oui, j'ai choisi de couvrir ce corps usé qui ressemble à celui des statues grecques, sauf que j'ai mes deux bras, un sexe classique et globalement pas de muscles. Hein, je suis flasque, presque liquide. Les enfants, quand ils me croisent dans la rue, pensant que je suis une flaque, me sautent dessus à pieds joints et dire que je ne suis même pas pédophile. Vous, Nagui, êtes un petit sec, vous avez le physique d'une amande grillée, à chaque apéro j'ai envie de vous. Mais moi je suis mou, j'ai le corps entier au repos, donc je ne me montre pas. Dans une soirée coquine, je serai le type en veste qui se s'occupe du buffet, disposant le taboulé à 2 mètres de haut afin que les organes des autres ne trempent pas dedans. Mais à part moi, tout le monde est à poil. Daniel, par exemple, se douche nu. C'est son petit rendez-vous hebdomadaire avec lui-même. Prenez les calendriers. Chaque année, la moitié sont des calendriers de nu. Mon facteur m'en a même vendu un avec des photos de chasse en slip. Exemple, cette année, les agriculteurs de l'Eure, c'est véridique, posent nus sur leur calendrier, à poil sur des ballots de foin. Et Dieu sait si ça pique. Mais comme l'argent récolté ira à des œuvres sociales, la société accepte de voir Jean-René s'excuser au moment de la traite d'avoir confondu Gilbert avec une vache limousine. Ces agriculteurs disent vouloir être entendus. Mais c'est absurde. À partir du moment où quelqu'un est nu, on ne l'entend pas vraiment, on le mate. Si Emmanuel Macron ne fait aucun discours en camp naturiste, c'est pas un hasard, c'est qu'il a envie d'être compris. S'il était nu, Brigitte lui cachant le sexe avec une petite pochette Dior ou une grosse besace Chanel en fonction de ce que Dieu lui a accordé. Les gens sont après quand il parle, encore plus que maintenant. J'en peux plus de cette mode des calendriers de nu, 10 ans que ça dure, rhabillez-vous les bolos. Même Kardashian en 2019 porte des futs. Cette année, rendez-vous compte, il y a aussi un calendrier des facteurs à poil. 12 mois, 12 facteurs. Alors, avec des types qui ont pris pour eux à titre personnel l'ancien slogan de leur boîte, bouger avec la poste, parce qu'il y a tout qui se balade. En Normandie, des associations de patients au milieu hospitalier ont fait pareil. À Walpé, pour, disent-ils, interpeller les politiques. Mais Agnès Buzyn, elle voit quoi? 12 raies du HUC. Ça va moins lui donner envie de dialogue social que de barbecue l'été dans cette petite crique de l'île grecque de Paros que même Stéphane Bern ne connaît pas. Quand Philippe Martinez de la CGT veut faire plier Édouard Philippe, il retire pas le bas devant Matignon. Non, il reste sapé d'un t-shirt avec écrit un big up à Louise Michel. Et puis c'est un monsieur qui a le pubis en dessous du nez, donc même en doudoune, il est sexe. La France est chaude. En Bretagne, des agriculteurs d'Ille-et-Vilaine ont aussi fait leur calendrier nu. Toutes les régions s'y mettent. Il n'y a plus un paysan avec des fringues. La prochaine saison de labourer dans le pré, ce sera Sodome et Gomorre. C'est atroce. Tous les tétons sont dehors. Génération Bernard-Henri Lévy.
Mais alors pourquoi autant de calendriers nus?
Eh bien d'abord parce qu'on est devenu totalement narcissique avec ses couillonneries d'Instagram où quand on montre un coude, on a 300 likes. Tous, on est persuadés d'être beau, alors que pas du tout. Un meuble Roche-Beaubois, c'est beau. Ou la frange de Clara Luciani. Ou ce moment où apprenant que vous êtes redevenu l'animateur préféré des Français, Nagui, vous hurlez « J'ai éclaté Michel Simès » avant de lécher votre propre reflet sur la vitre qui nous sépare de la régie.
Comme d'habitude.
Tout ça, c'est beau parce que c'est vrai. Mais le facteur de ta mère qui se recouvre d'huile à pizza en gonflant son pecto et qui pense qu'à lui seul, il va relancer l'activité courrier de la poste, c'est factice. Dans la vraie vie, votre facteur, quand il arrive, il fait la tronche, vous refile votre avis des impôts et le catalogue au champ des jouets chinois pour votre gosse qui, le 26 décembre, seront déjà pétés. La vie est glauque, les gens sont laids. Dans la réalité, le paysan n'est pas là à reluquer ses abdos en attrapant la paille pour ses veaux avec son sexe. Non, il galère. Lever 5 heures, coucher 22 heures pour 1000 balles par mois, saigné par les centrales d'achat qui l'ont poussé à produire plus pour rien. En écrivant cette chronique, je me suis documenté. J'ai vu des dizaines de gens nus. Je le connais très près maintenant, le monde du travail. Et là, sur le site de France Bleu Nord, la région de ceux pour qui Jérémy Crédville, c'est l'équivalent de Beyoncé. Je tombe sur un article intitulé « Des assistantes vétérinaires se mettent à nu ». Je me dis « Oh là là, encore, j'en peux plus de la nudité ». Ensuite, j'ai lu les trois Suisses mode homme de la page 127 à la page 258, celle des pyjamas, juste pour voir des gens habillés. Mais les assistantes vétérinaires expliquent leurs gestes. C'est la seule façon, disent-elles, de récolter des fonds pour les refuges animaliers. Vous portez une culotte, personne ne donne, vous retirez la culotte, les dons affluent. Le Téléthon, Nagui qui parle des maladies et Aya Nakamura qui parle d'elle. Bon bah c'est super, ça fait 75 millions, mais nus tous les deux, on serait à 250 millions. La nudité, c'est la seule manière d'avoir du blé. Quand le mendiant bulgare au feu rouge va comprendre que ce qu'on veut, c'est qu'il se foute à poil et se frotte sur le capot de la Fiat, là il va commencer à palper de l'oseille. Qui écoute les paysans, les assistantes vétérinaires, les personnels hospitaliers quand ils sont en pull? Personne. Mais une paire de fesses et un déhanché, hop, on devient visible. Mon conseil à Jean-Paul Delevoye pour un comeback, Jean-Paul, mets-toi à poil.
Merci, Tanguy Vassour.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Et donc Tanguy en version non textile, le 21 février, à Senon, c'est à côté de Bordeaux.
Tanguy, est-ce que tu sais quelle star mondiale a fait ça justement, s'est déshabillé pour être écouté, star mondiale de la musique.
Bah, Janet Jackson au Super Bowl, mais
non, elle, c'était un accident.
Iggy Pop, enfin,
c'était
juste pas un accident. Là.
Non, c'était voulu, mais c'était c'était un téton.
Il y a longtemps.
Lady Gaga.
Lady Gaga. Ah.
Lady Gaga était comment on appelle ça, chanteuse piano bar. Donc elle jouait piano, elle chantait à New York. Personne ne l'écoutait. Les gars étaient là, ils sortaient du boulot, ils buvaient, ils faisaient du bruit, ils riaient. Voilà, piano bar, tu vois, le bruit des cacahuètes, l'apéro, tout ça. Et au fur et à mesure, parce que elle n'attirait pas leur attention. attention. Déjà, elle a commencé par modifier les paroles, à dire des trucs de plus en plus grossiers. Ça ne changeait rien. Il n'écoutait pas, il ne l'entendait pas. Et elle a commencé à se déshabiller. Et elle a fini totalement nue. Et là, ils ont arrêté de se parler, ils sont tournés, ils l'ont écouté. C'est
moi,
quand
je
même
fais pareil, mais sans le piano.
C'est ça, d'accord.
Okay.
Bah tiens, justement, des questions concernant la culture et ce qui se passe en ce moment. Qui vient de communiquer sur Instagram, sur les réseaux, en disant « work in progress », c'est-à-dire en train de travailler. Qui vient de faire ça?
Ah, je sais.
Un réalisateur.
Non. Ouais. Bah si.
Non, c'est pas un réalisateur.
Benoît, bah, c'est un comédien, un musicien. C'est lui qui a fait Nicky Larson, là, le comédien
Philippe
français.
Lachaud.
Il vient de dire
j'ai hâte de le publier. Ouais. Non, alors c'est plutôt dans la musique.
Daft Punk?
Non.
Ah non, c'est Lenny Kravitz.
Non.
C'est français?
C'est français, okay. et je crois que c'est inattendu.
Christophe Maé?
On pense. Goldman?
Non.
Jean-Pascal?
Non.
Je sais pas, c'est inattendu.
Non, non, c'est inattendu. C'est inattendu.
Work in progress.
On pensait que elle avait arrêté.
Elle avait arrêté.
Dalida.
Françoise Hardy.
Non.
Rousseau.
Non.
Diams.
Oui.
Diams.
Oh, c'est moi à présent. Génial. C'est vrai. Ça serait super.
On va sortir un bouquin ou autre.
Ah, bah, c'était ça ma deuxième question. Ça vous fait plaisir ou pas?
Pour de vrai. Voilà, Diams, j'adore Diams. Voilà. Franchement, réécoutez les chansons de Diams. Elles sont chamées.
C'est
de la boulette.
La boulette, c'était ça.
Notamment.
Mais il y en a des tellement mieux.
Il y en a des très très belles.
La dernière. C'était le dernier.
Ouais, le dernier. C'était le dernier. Ça, c'est vachement beau. Ah ouais, ça me fait plaisir.
Ça diminue.
Donc, work in progress pour Diams, sans doute, ça veut dire un album qui va débarquer bientôt. Est-ce que vous pourriez disparaître?
Oui.
Un jour, Alex.
Regardez.
Tout arrêter, dire fini.
Ah, j'adore.
Pas de scène. Pourquoi?
Je sais pas, j'ai un fantasme imbécile, mais j'aimerais bien.
Pour revenir ou pour...
Non, j'en sais rien. Mais
ou pour être derrière la caméra, ou pour être pour diriger les autres sans être sur le devant de la scène.
Oui, oui, je crois. Enfin, j'aime bien me dire que la vie s'arrête pas et qu'elle est surtout pas nulle. Si ça devait s'arrêter, c'est plutôt ça. Je déteste. J'aime pas. J'adore mon métier follement, mais je déteste quand on dit avec finalement une pointe de mépris dont on se rend pas compte. C'est le plus beau métier du monde. T'as envie de dire bah t'es gentil, moi je suis boulanger.
On dit ça des enseignants aussi, professeurs.
Oui, mais on en fait beaucoup sur le nôtre et je trouve qu'il est superbe et j'adore et je suis très content et je prends ce que j'ai à prendre. Mais je veux que la vie soit positivement possible
ailleurs.
Voilà.
Ça vous a déjà traversé l'esprit?
Ouais. Parce que j'ai commencé tôt. Alors des fois, je me dis, je vais faire mes adieux.
Quelle star du rock, alors star mondiale, va bientôt débarquer sur Netflix?
Attendez, j'ai pas écouté.
Quelle star du rock, alors de ce niveau-là,
genre Bono, quoi.
Plus encore. La famille.
Qu'est-ce qu'il va faire sur Netflix alors?
Une fiction.
Steve Estataf.
Adaptation d'un roman qu'il a écrit.
Keith Richards.
Non, star du rock, mais c'est de cette génération-là.
Bon Jovi.
On s'est dit livre.
Star.
Livre rock.
Star.
Bob Dylan.
Non, mais.
Ah bon,
bah, John Lennon.
On n'est pas loin avec les Stones.
Elton John.
McCartney.
Oui.
Hip-hop.
Cartney. Exactement.
Ah, Cartney.
Tu l'as dit, ils sont trop y croire.
Ouais, bah non, parce que je me disais.
Non, Paul McCartney.
Très en retrait.
Oui, Paul McCartney.
Tu croyais pas?
Ouais, j'y croyais pas. Je savais pas qu'il écrivait, en fait.
C'est un livre pour enfants qui compte les aventures extraordinaires de Wirral. Je sais pas comment il faut prononcer. Un jeune écureuil, Wirral, qui.
Ça va marcher avec un nom comme ça. C'est pas son premier, il a déjà fait des livres pour enfants.
Alain.
Et alors, c'est lui qui composera les musiques.
Les musiques.
C'est lui qui composera les musiques et les chansons originales. Ça s'appelle High in the Clouds. Je me suis totalement vautré. C'est pas lui qui a écrit, c'est lui qui fait la bande originale. Ah ouais.
Et c'est Diams en fait.
Qui a...
fait le livre pour en anglais.
Qui aurait dû faire la première partie de Charles Aznavour pour ses 95
Eddie
ans?
Mitchell.
Non.
David Bowie.
Non.
Un jeune?
Ouais. Et pas un chanteur.
Ah, ah bon, de quoi? Ah bon?
Mathieu Madénian.
Exactement.
Ah, mais oui, un arménien, ben oui.
Exactement.
Arminouche.
Exactement. Question maintenant extrêmement facile. Qui fait ce soir la première partie?
Alex Lutz, en tout cas. Non, c'est pas vraiment Alex Lutz directement, c'est le personnage, c'est Guy Jamais.
C'est génial.
Ça, c'est dingue.
C'est demain soir, oui.
Demain.
Ah, c'est demain soir.
Non, on parle pas de malheur, je dois faire encore des répétitions ce soir. Chaque seconde.
C'est génial.
T'as failli dire des essais.
Bah ouais. Je suis mortifié, c'est super. Allez, c'est super.
C'est
mais je...
bah,
à
Bercy.
Petite salle, là.
À Bercy.
À Bercy, et c'est ce que j'avais. Il y a vos confrères qui m'ont posé la question hier ou avant-hier, et j'ai dit, et c'est vrai,
Je n'avais pas conscience de la contenance de cette salle.
17, 18 000 personnes.
C'est une ville, en fait. C'est une ville de gens.
C'est vrai. Ouais.
C'est notre chanson, mon cœur, qui nous remplit de bonheur. Et tu chantes, je chante, de doudi, doudi, da. Et mon amour reste à toi. C'est notre chanson, mon cœur, qui nous remplit de bonheur.
Da doudi, doudi.
Et tu chantes, je chante, da doudi, doudi, da. Mon amour reste à toi.
Alors, comment... D'abord, vous avez déjà le costume, vous
Non,
avez...
mais ce qui était
la
très motivant quand Mathieu me l'a proposé, c'est qu'il invite Guy.
Ouais.
Et donc, parce que j'ai déjà fait la projection du film suivie du concert où je racontais un peu des anecdotes de tournage, etc. Mais c'était le groupe tel qu'en nous-mêmes, et puis c'était une manière d'être avec les gens. Mais là, c'est la première fois qu'on remet le... voilà, qu'il va vraiment être là, avec ses 74 ans, enfin 75. Du
est-ce, coup. Que, est-ce que je peux rajouter une pression supplémentaire?
Allez-y, je vous en prie. Au-delà du fait qu'il n'y a pas de batterie?
Non, c'est pas ça. Non, c'est que...
Et Laure Philippe sera dans la salle.
Lorsque vous avez fait la soirée Guy, le public était venu pour ça.
Ouais.
Là, le public vient pour M.
Oui.
Donc vous allez
et
vous
donc ils vont juste se dire tiens un vieil homme.
Non.
Ils ont pas tous vu.
Non, c'est non,
il y a une ville qui va se
non,
dire.
Non non, on fait un petit truc avec on prévoit avec Mathieu de
une intro.
Oui, enfin un petit coup de téléphone comme s'il indique vouloir l'inviter quoi. Donc voilà, on prend quand même la main des gens évidemment.
Mais... Et ce paradoxe là de dire il y a quelques secondes je pourrais tout arrêter, tout abandonner et d'avoir créé un personnage sur justement une espèce de comeback à plus d'âge.
Eh ben on parlait de la psychanalyse en début d'émission, il doit y avoir des éléments. Non, mais après c'est c'était intéressant aussi avec Guy de réfléchir à une fin de carrière debout avec ses loupés et puis ses pas loupés. Bon, forcément, quoi. Forcément.
Ce qui vient être très complémentaire avec une fin de carrière assis avec ses loupés et pas loupés pour un vieil homme. Voici Daniel Morin.
Vous avez entendu Jérémy Crédville, nous approchons à grands pas des fêtes de fin d'année. Alors que faire et surtout ne pas faire en cette période de fête où souffle l'esprit de Noël, période où on se retrouve en famille, où tout est moelleux et baigne dans un climat de concorde générale. Alors parmi les choses à éviter, là je me base sur quelques infos sur lesquelles je suis tombé tout récemment et qui dans l'esprit ne sont pas très Noël. Il y a quelques jours, l'ancien coéquipier chez Ferrari de Michael Schumacher, le brésilien Rubens Barrichello, a fait quelques confidences dans un podcast. Il a dit que Michael Schumacher, qui je vous le rappelle est quand même dans le coma depuis 2013 suite à une chute à ski, il a dit qu'il ne gardait pas un bon souvenir du champion allemand, je cite, un homme qui ne lui a jamais offert son aide, un homme qui humainement n'était pas le meilleur.
Punaise.
Mais ferme-la, Barrichello. Tais-toi, on dit pas ces choses-là à propos d'un gars qui aujourd'hui est moitié homme, moitié végétal. On dit, oui, on était dans la même équipe, c'était un grand champion, il a beaucoup manqué au monde de la F1, et puis c'est tout. Non, parce que le type, s'il dit ça publiquement, vous imaginez ce qu'il pense vraiment de Schumacher, il le déteste. Alors si à l'occasion du réveillon, on évoque un proche mal en point et que vous ne l'aimez pas, taisez-vous. Allez, joyeux Noël à tous! On oublie les problèmes, on oublie la grève, on oublie Jean-Paul Delevoye, on trinque, on s'amuse, mais pour autant, on n'oublie pas Pépé. Hein. Pépé qui était avec nous pour chaque Noël et qui aujourd'hui est à l'hôpital, hein, qui se repose suite à son amputation des jambes et des mains. Hein. Tu nous manques, Pépé, reviens vite! Hein.
Reviens vite, mais je dirais plutôt prends ton temps.
Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Jean-Claude?
Non, j'ai rien dit.
Bah si, t'as dit quelque chose, t'as dit prends ton temps, t'as quelque chose contre Pépé?
Non, j'ai rien contre, mais j'ai rien pour non plus. Hein. Vous êtes là tous à pleurnicher sur un mec qui, pendant la guerre, a quand même balancé ses voisins aux nazis. Je vous rappelle que Pépé, c'est quand même le gars qui a fait des enfants à mémé, à la voisine, à ses cousines et à sa sœur. Hein. Bah, excusez-moi, mais je suis pas comme vous, hyper pressé de le revoir, Pépé. Le seul truc qui me rassure, c'est que maintenant qu'il a plus de jambes et plus de mains, bah, il pourra plus faire chier grand monde.
Non, là, ce genre de déballage, ce besoin idiot de tout dire, ça peut gâcher une belle ambiance de Noël. Tout ça, c'est tout comme les révélations que vient de faire la comédienne Charlize Theron sur un autre média. Elle a raconté comment un soir, sa mère et elle étaient menacées par son père alcoolique qui avait tiré sur elle avec une arme, ce qui a poussé maman à buter son père. Là encore, éviter ce genre de conversation le soir de Noël. Bon bah joyeux Noël à tout le monde, hein. Je voulais dire que j'étais une fois de plus super heureux de passer Noël avec mes amis et ma famille. Ma famille formidable malheureusement cette année, sans maman qui nous a quittés en février, mais toujours avec mon papa formidable que j'aime plus que tout, voilà. Allez, un toast à tous les papas!
Plutôt crevé.
Bah, qu'est-ce qui t'arrive Katia?
Rien.
Vas-y, t'as dit, on portera tous la pépée, t'as dit plutôt crever.
Oui, ben ça t'avait eu le père que j'ai eu, voilà, il mérite pas, vous pouvez le mettre tous dans le même panier les papas. Le mien était bourré tous les soirs, il frappait ma mère chaque fois qu'il la croisait. Et il la croisait souvent, ils étaient mariés. Mon papa, il aimait prendre son flingue et nous tirer dessus. Alors un jour, ma mère, elle lui a mis une balle dans sa tête, à mon super papa. Elle a explosé la gueule, il y en avait partout. J'ai jamais été aussi contente de ma vie. Moi, mon connard de papa, je le verrai plus jamais, c'est génial. Alors, tonton, c'est à tous les papas, peut te mettre au cul, Jean-Michel.
L'ambiance...
Jean-Michel.
L'ambiance est gâchée, Nagui, vous êtes d'accord avec moi?
Oui, c'est tendu, oui, c'est
tendu. Ouais, alors là, pour attraper l'esprit de Noël, accroche-toi, ce sera pas piqué des hannetons, hein. Pour résumer, à Noël, ne pas dire de mal. Ne dire de mal de personne, peu importe la personne. Oui, Tanguy, même si on parle de Nagui, retiens-toi. Bon, allez, à demain.
Merci, Daniel Morin. La bande originale avec Nagui. À propos de demain, donc je le rappelle, le personnage de Guy sera en première partie de M.
Quel
à,
film
à Bercy. Mmh. Ouais, quel concert. J'ai hâte d'entendre ça. Vous avez prêté votre voix également au personnage de Jesper, un film d'animation.
Ah, c'est
oui,
génial.
Pour Netflix, il est trop bien le film.
Klaus, je l'ai
oui,
vu.
C'est un peu l'épisode zéro du Père Noël, de l'histoire du Père Noël, on pourrait dire.
C'est
et
super.
J'ai trouvé l'histoire super.
Ouais.
On est avec Karine Viard, Ludivine Sagnier et François Berléand en voix.
Chic.
Et ouais,
enfin,
et
François Berléand trouve du travail. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Et
c'est
j'ai adoré, adoré faire ce truc. Et je trouve l'histoire est vraiment bien foutue.
Et c'est un super Klaus. Dessin animé.
Ouais.
J'ai adoré. Ouais.
Baron Noir bon. Aussi, on va vous retrouver dans la saison 3. Non
oui. Ah, faut oui, oui, je fais. Non, non, si, je D'accord. fais le chéri de. La présidente de la République.
D'accord. Et puis, vous parliez tout à l'heure de Quentin Reynaud. Vous l'avez retrouvé pour 5ème set.
Ouais.
Sur l'histoire d'un joueur de tennis.
Un joueur de tennis qui, bah, du coup, a 37 ans. J'en ai un peu plus. Et qui, et qui est pile au moment de choisir la retraite ou pas, en étant classé 255e mondial. Donc, déjà, une vraie difficulté. Et je ne connaissais pas trop cet univers. Assez dur et violent psychologiquement du tennis et j'ai adoré faire ça. Ouais.
À partir du 21 décembre, donc la semaine prochaine, jusqu'au 26 janvier, aux Folies Bergères, Alex Lutz, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu retiens du spectacle et de la présence d'Alex aujourd'hui, Leïla?
Je retiens qu'on peut être viril, ne pas sentir fort, ne pas avoir un avis sur tout.
T'es pas à côté de lui. Hein.
Et
ce que je peux te dire, c'est pas.
Il est venu en courant.
Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en effet, c'est pas du stand-up dit traditionnel et je trouve que la forme elle est un peu épuisée et que ce que vous amenez à chaque fois c'est cette capacité à nous faire marrer complètement, à nous emmener dans des moments hyper poétiques, à vraiment vous décarcasser pour proposer un très beau spectacle sur scène.
Daniel Morin.
Merci.
Ben moi j'ai l'impression qu'Alex Lutz sur scène est un peu comme Alex Lutz dans la vie, il nous fait rire mais aussi il y a pas que de la franche rigolade, il y a aussi des moments émouvants, il s'est aussi posé des questions, se remettre en question. C'est assez agréable et c'est une forme de stand-up qu'on retrouve un peu de plus en plus souvent avec plus ou moins de succès, plus ou moins de talent. Et je trouve que c'est rafraîchissant, contrairement à toute la proposition d'esclavage imposée qu'on nous propose.
Le rire imposé, ouais, comme il en parle dans le spectacle. Albert Algou.
Bah oui, je suis d'accord. Drôlerie et poésie, et ça c'est rare.
Jérémy Crémier.
Ouais, c'est ça, il est hyper précis quand il l'incarne. Moi j'ai hâte de voir cette précision. Folies Bergères, j'ai vu le précédent, je m'étais marré de bout en bout et j'ai hâte de...
Bravo le cheval. Hein.
C'est chouette d'entendre parler des gens qui doutent, parce que moi je doute en permanence. En fait, il y a une fois où j'ai pas douté, c'était en juin 82, j'ai dit je vais l'acheter ce Bounty à la boulangerie. Mais sinon, voilà, je doute en permanence, donc c'est chouette et puis vive la fragilité. Quoi,
qu'est-ce que vous aimeriez entendre dire, justement, à la sortie de votre spectacle
Alex? Tout ça, là. Voilà, je vous emmène tous dans mon sac à dos et je vous dégaine. Ah ouais, je trouve ça super. C'est vrai, enfin, voilà.
Drôle,
et puis je salue parce que c'est quand même une équipe. Il y a Tom Dingler, mon metteur en scène. Il y a Mario Luracci qui m'a rendu ce rêve possible d'avoir mes deux bourrins avec moi sur les routes.
Là, vous parlez pas de Tom et Bruno, hein, vous parlez du cheval.
Je parle
des chevaux, même du
chevaux qui, ouais. Voilà, qui sont. C'est pas de la démonstration équestre, c'est vraiment de la présence un peu poétique.
Ah non,
et tout
puis
ça.
C'est très beau sur le Vivaldi à la fin, c'est sublime.
Ah ouais,
ils sont super
sympas en plus. Et puis Yann Vaillet, enfin toute l'équipe qui est super sur ce spectacle. Je suis très heureux.
Des excuses à présenter, peut-être.
Bien évidemment. Vite. Désolé pour tous les jeunes garçons propres qui se sont sentis niés, oubliés, humiliés, salopés par Valérie Lacadour Boudadi, qui elle-même, pour être à ses côtés tous les jours, n'est pas très très stricte au niveau hygiène.
Bon.
Le vendredi, c'est un petit mélange œuf mayo poireau vinaigrette quelquefois. Désolé pour nos auditeurs lettrés et curieux qui m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient trouvé bien trop courte notre rubrique Les petites histoires des expressions qu'on n'utilise plus avec ce matin pas de cliquet des hannetons. Alors on bosse pour demain sur C'est fort de café, il fait pas dans la dentelle et chier dans la colle. Et désolé pour Ganache le maréchal qui a été honteusement censuré dès qu'il a voulu chanter ce matin ce célèbre et magnifique titre.
Ça, c'est de la musique, les amis. Ça, c'est de la musique.
Demain, Yann Arthus-Bertrand. Vendredi, ça sera Michel Simès. Et aujourd'hui, c'était Alex Lutz. Merci mille fois,
merci
Alex, d'être venu par Inter. Et pardon pour cet énorme retard. Les carnets de campagne, c'est sur Inter. Bonne journée. Merci. À demain.